La matinale de 19h.
Et bah, c'est une émission qui parle de société,
de politique,
culture alternative.
On va aussi parler de sport, de gens dans la rue.
Et l'actualité en règle générale.
On va peut-être parler des corbeilles à linge.
On va pas s'ennuyer.
En osier d'Auvergne.
Voilà, il y aura des invités.
Des sociologues, des invités chercheurs.
Les invités ne diront que des choses intelligentes.
Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
S'il y a une chose qui est compliquée sur Internet, c'est bien l'humour et le second degré. Pour preuve, allez, la une de l'hebdomadaire L'Express cette semaine qui titre sur la Macronmania, ce sentiment répandu en France que tout le monde adore Emmanuel Macron. Couverture humoristique, pleine de couleurs kitsch, avec des slogans du genre « Il marche sur l'eau » ou encore « Il sauve la planète ». Du second degré donc a priori, où l'on se moque du nouveau président. Mais couverture qui ne plaît pas à tout le monde, à voir l'avalanche de tweets de protestation qu'elle a provoqué sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Comme si on ne pouvait plus rire de la politique, comme si en fait on ne pouvait même plus se moquer de soi-même sans être suspect. Alors oui, bien sûr, on ne peut pas rire de tout avec tout le monde, mais non d'un Charlie, l'auto-dérision parfois. Qu'est-ce que ça fait du bien ! Allez, bravo et merci, L'Express.
La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
Le droit de manifester est-il menacé par l'état d'urgence? C'est une des questions que pose Amnesty International dans un rapport récent. Elsa Olaizola, chargée de campagne pour Amnesty International France, sera avec nous dans un instant pour en parler. Et puis on parlera de ce qui se passe la nuit dans les zoos de Paris avec les nocturnes du parc zoologique, ce sera à 19h30. Alors restez bien connectés puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
Aucune manifestation organisée à Paris par des syndicats n'a été interdite depuis celle du 8 février 1962 à la fin de la guerre d'Algérie. D'autres manifestations non syndicales concernant en particulier des questions internationales comme la question palestinienne ou des manifestations non déclarées ont été interdites. Dans la période récente, après les attentats du 13 novembre, le préfet de police avait notamment interdit toute manifestation durant 5 jours dans le cadre de l'état d'urgence. Le gouvernement avait ensuite interdit les marches pour le climat prévu en marge de la COP21. En province, après plusieurs manifestations violentes, le préfet de Loire-Atlantique a aussi interdit une manifestation contre la loi travail le 9 juin dernier dans le centre de Nantes.
Elsa Olaizola, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de campagne pour Amnesty International France, avec moi également studio Tom de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Tom.
Bonsoir.
Elsa Olaizola, c'est un rapport que vous venez de publier, que Amnesty International vient de publier. Est-ce que le droit de manifester est menacé par l'état d'urgence?
Alors en effet, on a sorti un rapport le mois dernier sur le droit de manifester en France.
Oui, c'était fin mai exactement, je précise.
Exactement. Et en fait, ce dont on se rend compte clairement, c'est que l'état d'urgence, les mesures de l'état d'urgence ont été utilisées pour restreindre le droit de manifester. Ça, c'est une première chose. Mais une deuxième chose qu'on a aussi pu documenter dans notre rapport, c'est le fait qu'il a été fait usage de stratégies de maintien de l'ordre et d'usage de la force par les forces de l'ordre d'une manière absolument disproportionnée dans le cadre de manifestations depuis l'instauration de l'état d'urgence.
Et on parle de combien de manifestations qui ont été interdites sous ce prétexte-là de l'état d'urgence?
Alors, en 18 mois, on a eu 155 manifestations interdites.
Alors, cela dit, il y a quand même un paradoxe parce que les statistiques de perquisition, d'assignation à résidence, ces chiffres, ils diminuent depuis plusieurs mois. Donc, on pourrait se dire tout va bien, a priori. Mais pour vous, ces chiffres, ils sont trompeurs?
Alors, il y a deux choses différentes. En effet, il y a d'une part les mesures telles que les perquisitions qui diminuent. Mais par contre, sur ce qui est du droit de manifester, on continue à avoir des interdictions de manifester, mais aussi des interdictions individuelles. Et ça, ce sont des mesures qui sont permises que dans le cadre de l'état d'urgence, où finalement, on interdit à des personnes de se rendre à des lieux où il y a des manifestations. Et ce qui nous préoccupe particulièrement, particulièrement, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui ont été interdites de manifester, qui est, je vous le rappelle, un droit fondamental, alors que ces personnes n'ont jamais été poursuivies pour aucune violence, n'ont jamais été arrêtées, et donc on peut se demander sur quelle base on leur interdit d'exercer ce droit fondamental.
Et on parle de quelles manifestations concrètement là ?
Alors on parle de plusieurs manifestations, mais notamment des manifestations comme on l'a entendu tout à l'heure en lien avec la COP21, des manifestations en lien avec la loi travail. Nous avons la plupart des interdictions individuelles de manifester étaient dans le cadre de la loi travail.
Oui, parce que Elsa Ola Zola, Tom le disait il y a un instant, concrètement donc votre étude, votre rapport, il porte sur une période qui se situe entre novembre 2015 et janvier 2017, hein, sauf erreur. Il y a eu 150 manifestations interdites, mais il y a eu plus de 10 000 rassemblements qui ont été maintenus à travers la France. Donc les manifestations aujourd'hui sont loin d'être interdites.
Alors, en effet, si on prend ces deux chiffres, on peut se dire finalement c'est un problème annexe. Mais dans les faits, le droit de manifester est un droit fondamental et les interdictions qui ont lieu aujourd'hui sont interdites sous les mesures de l'état d'urgence. Et quel est le problème ? Le problème, c'est que l'état d'urgence, l'objet de l'état d'urgence, c'est la lutte antiterroriste. Alors, si son objet est la lutte antiterroriste, pourquoi a-t-on des interdictions de manifestations qui n'ont absolument rien à voir avec le terrorisme ? Et c'est ça qui est extrêmement grave, c'est qu'on utilise des mesures hors de l'état de droit pour interdire des manifestations et pour interdire à des personnes d'exercer ce droit fondamental.
Juste pour être bien précis, quand vous parlez d'interdiction de manifester, hein, c'est, sauf erreur, ce qu'on appelle des interdictions de paraître. Vous en avez dénombré 639,
exactement.
C'est bien ça. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on arrive chez quelqu'un, on dit bah non, tu restes chez toi. C'est ça que ça veut dire concrètement ?
Alors en fait, concrètement, ce que ça veut dire, alors juste pour le chiffre de 639 s'arrête au 1er mai 2017. Il y en a eu d'autres par la suite. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que les personnes reçoivent chez elles une interdiction à paraître, et si elles se rendent en manifestation alors qu'on leur a interdit de se rendre au lieu où allait avoir lieu la manifestation, elles peuvent ensuite être poursuivies.
Est-ce que vous avez des exemples de personnes qui ont été interdites de manifester ?
Oui, en effet, dans notre rapport, on a plusieurs témoignages de personnes qui se sont vues recevoir ces interdictions. Et encore une fois, ces personnes-là, pour certaines d'entre elles, n'avaient jamais été arrêtées ou poursuivies pour aucune violence. Tout ce qu'on voit dans l'arrêté d'interdiction, c'est qu'on leur dit « Vous avez été présent dans des manifestations où il y a eu des violences et donc nous vous interdisons d'aller à de nouvelles manifestations. » Et ça a un impact très fort. Par exemple, on a ce témoignage d'un jeune homme qui dit qu'il a eu l'impression d'avoir été traité comme un terroriste, qu'il était chez sa mère a vu cette interdiction, elle s'est dit « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il se passe ?» Et donc en fait, on a une criminalisation extrêmement importante de personnes qui en fait, on leur interdit d'aller manifester alors qu'on ne leur reproche rien.
Ce que vous pointez aussi, ce que votre rapport pointe aussi, c'est l'usage excessif de la force dans les manifestations.
Oui, exactement. En fait, on a
comment
pu
ça,
aussi...
De nouveau, qu'est-ce que vous avez vu remonter comme témoignage ?
Alors, il y a eu plusieurs choses. D'une part, en fait, ce rapport s'appuie sur de la recherche de terrain, des interviews, mais aussi sur des observations. En fait, nous sommes allés dans 4 manifestations en tant qu'observateurs pour voir de nous-mêmes... quel type de stratégie de maintien de l'ordre était mise en place lors des manifestations.
Parce qu'aujourd'hui, concrètement, les chiffres qui sont donnés, qui sont publiés par le ministère, ils ne sont pas suffisants pour vous. Ça ne permet pas de se rendre compte de la situation.
Non, ils ne sont pas suffisants parce que, par exemple, sur la loi travail, rien qu'à Paris, les street medics, donc qui sont ces bénévoles qui apportent de l'aide aux personnes blessées, dénombrent plus de 1000 blessés à Paris. Or, ces chiffres ne sont pas du tout les mêmes que ceux donnés par la police. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a beaucoup de personnes, si elles sont blessées, elles vont avoir peur d'aller porter plainte auprès de la police puisqu'elles ont été blessées par des forces de l'ordre. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les chiffres avec beaucoup de précautions et que nous demandons justement à l'État de faire ce travail, de recenser vraiment les violences à l'encontre des manifestants.
Donc c'est 1000 selon les strict medics et 32 selon le ministère de l'Intérieur justement. Et quand on parle de violence, on parle de quoi en fait? C'est quelle méthode utilisée par les policiers pendant les manifestations?
Bah, y a beaucoup de méthodes différentes. Celle sur laquelle nous avons en particulier travaillé, ce sont les grenades à main de désencerclement. Nous avons notamment le témoignage de Laurent Théron, qui est en fait une personne qui était allée manifester en septembre 2016. Et alors qu'il s'apprêtait à quitter la manifestation, il a entendu un grand boom à côté de lui. Et il a perdu l'usage de son œil à cause d'une grenade à main de désencerclement. Et donc nous, ce qu'on montre en fait en documentant ces violences, c'est de montrer que ce sont pas des choses anodines. C'est un impact extrêmement grave sur ces personnes qui vont en manifestation. Et ça peut même mener à ce que des personnes aient peur d'aller en manifestation. Et donc l'impact sur le droit de manifester est forcément très important.
Il y a une autre stratégie policière que vous pointez du doigt, c'est l'ANAS. Qu'est-ce que c'est l'ANAS? Et on parle même de c'est strictement encadré par le droit international. Pourquoi c'est...
Alors en fait, l'ANAS, c'est l'encadrement par les forces de police de certains manifestants pour les empêcher de se rendre en manifestation. En fait, nous, ce que nous avons pu constater, notamment à travers des observations, c'est que des manifestants complètement pacifiques étaient nassés, c'est-à-dire qu'ils étaient retenus pendant des heures par les forces de police sans finalement aucune base. Et en effet, c'est strictement encadré par le droit international parce que l'impact sur le droit de manifester est extrêmement fort. Et donc, nous, ce que nous demandons, c'est que les NAS contre les manifestants pacifiques, enfin, qu'il n'y ait plus de NAS contre les manifestants pacifiques.
Alors justement, hein, cette distinction entre manifestants pacifiques d'un côté, pacifistes d'un côté, et puis violents de l'autre, c'est beaucoup revenu, notamment avec les manifestations lors de la loi travail. On pointe souvent côté police les groupes violents qui infiltreraient les manifestations. Qu'est-ce que disent les témoignages que vous avez recueillis?
Ce qui est extrêmement préoccupant dans les témoignages que nous avons recueillis, c'est que la plupart des personnes qui ont été victimes de violences disaient « mais en fait, il n'y avait aucune violence autour de nous ». Donc ils ne comprennent pas pourquoi ils ont subi des violences de la part des forces de l'ordre.
C'est vrai qu'on les a vues, hein, ces images de voitures de police incendiées, ces images de vitrines cassées. On se dit, bah oui, forcément, c'est effectivement violent. Vous avez vraiment entendu un son de cloche différent de la part de ces manifestants?
Oui, exactement. Alors, bien sûr, Amnesty International déplore les violences contre les forces de l'ordre. Ça, c'est un fait. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'il y a des violences contre les forces de l'ordre que la réponse doit être une violence une violence aussi forte. Et surtout, je tiens à rappeler que c'est pas parce qu'il y a des éléments violents au sein d'une manifestation que cette manifestation-là n'est plus pacifique. C'est-à-dire que dans nous, les manifestations que nous avons documentées, la plupart des manifestants étaient pacifiques. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est permettre à ces personnes-là de manifester sans craindre de subir des violences.
Et dans les manifestations, il y a aussi les journalistes. Et dans votre rapport, vous parlez de ciblage. Comment ça se manifeste?
Alors, en effet, on a des journalistes, des médias, mais aussi simplement des personnes qui filmaient avec leur smartphone, qui nous ont dit avoir été visées directement par la police. Ils nous ont dit, en fait, on a l'impression qu'on a été visé par de la violence simplement parce qu'on filmait. Et ce qu'on tient à rappeler, c'est que le droit à l'information, c'est un droit essentiel. Et même si il y a des actes de violence de la part des forces de l'ordre, de la part des manifestants, il faut toujours permettre aux journalistes, aux médias ou à d'autres personnes de pouvoir les documenter pour ensuite pouvoir établir la vérité des faits. Donc ces attaques contre des personnes qui documentent les violations nous préoccupent énormément.
Il y a cette idée qui revient dans les nombreux témoignages qui sont dans votre rapport, dans le rapport d'Amnesty International, cette idée qui revient de gens qui disent « j'ai fini par penser que l'État voulait nous intimider ». Vous l'avez beaucoup entendu cette réflexion, l'État veut nous intimider.
Alors c'est quelque chose qui est souvent revenu dans les témoignages. On a eu beaucoup de témoignages de personnes qui disaient nous maintenant nous avons peur d'aller en manifestation, nous hésitons avant d'aller en manifestation. Et donc ça c'est préoccupant parce qu'on arrive à un stade en fait où les personnes s'empêchent elles-mêmes d'exercer ce droit fondamental.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Hey, sorvé fait bêtis, monde varié, on a pas ce monde et voir qui est le Ben Finn et Hungry Angel and Lynn. Belle de Strouzen Tambouline, Dreamin, Aki Denil, Atre Sarquipin, Arquin, t'as pas place à morphine. N'a même brasse pas Vemlin, on s'pérait, je vous roule les graines. Choix, j'ai de même en blanc, ni d'une carte, nous l'aimons qui est John Banten. Dow à Dow, and again, non que les arrêts à glace comme mon mari, on a mis à rire la cave et Vegelin. Ton arrêt pas ben de peu peine à rien. Mais point, il nous y faut, nous y faut, devait en drôle. Qui m'aiment du tort, du cas de serre, tout le pas vers toi, les deux distols, le fait du ben fort. Derrière qui foutrait kin de drame, une vie toute colle. Tu verrais, mon gagnant, rien va refaire, nos guettes, les deux sont peut-être râles de la laine. Ne ce qui casse de drap, pas en maligène, pareil, ne tu bénin qui est clair, y'aura d'aine. A deux, on est varmler, ne ce qui casse, tu gaffes, t'in, mais mire, qui fout qu'il y a, canner, en qui casse et gaz, mal, faut qu'il y ait d'art, ne ce qui d'affaire d'avant, casse et gaz, d'air, on en sert. Une veille, melgue, ta vanne, nous gère, zéro d'arzei, spire, talon, nous disire. J'ai him back a pen and dash. So don't gant to pay the drink. A gant to pay the crayon. Trinker, aim d'art, ou peur, et pas leur vie, c'est bu, et venu gagner des rings. Big gates, et rentre comme un drain. Son chon, met bouée, belle, bah, on break. N'est qu'un autre arène, n'a plus de main. A la courante de blague, on brain. Pété un gueule, rom âme. Putain, les ferrois de la jumbe, un tout le monde. Tout donné les fentes, à la squash, rock moog. Niki de roule, les côtes d'art, ressort. Même dans la baie, warp, mais avant qu'il dim. Y'a one qui se gang, elle m'aime, zim. De dos de nom, colle, la maracu d'un oeuf. On rappe, astral, dreamin, une vêtue de folle. Pousse que mes pavillines. But though, we're gonna queen. Centra au sober, war vin. A la ronde qui est trois, veille au kin. Tol you, va la visure, pas crazy, on oblige, I dear you. Bavro, pas nom, la ra onde. Fais l'arnes, bé, dormar nature. Une veille, melgue, ta va nous gère. Zer, dar, zay, spir. Talon, nous disir. Sclan, j'ai rien down. Croix, un mar, down. Classique, fait loin.
À notre fenêtre, la grêle qui tombe dans les rues de Paris. Et à l'instant, sur Radio Campus Paris, vous écoutiez une vraie ou merglée, c'était Chrisman.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
On est toujours en compagnie d'Elsa Olaizola, qui est chargée de campagne pour Amnesty International. On parle avec elle de l'état d'urgence et du droit de manifester.
Et pour vous, au final, l'état d'urgence ne fait qu'interdire les manifestations et favoriser les violences, ou n'a-t-il pas permis d'éviter des attentats terroristes ?
Alors, en fait, nous travaillons de manière en effet plus générale sur l'état d'urgence. En fait, ce que nous constatons, c'est que l'état d'urgence a des impacts extrêmement forts en termes de violation des droits fondamentaux. Il faut le rappeler, l'état d'urgence, c'est un état d'exception. C'est un état qui doit être, qui est pensé pour être limité dans le temps.
D'urgence, par définition, voilà, c'est dans le titre.
Exactement. Pour être limité à 12 jours. Là, ça fait plus d'un an et demi que nous sommes sous état d'urgence. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que certains dirigeants en fait de la lutte antiterroriste ont clairement dit l'état d'urgence a été efficace que pendant les premières semaines. Donc c'est-à-dire que depuis 18 mois, nous sommes sous état d'urgence, mais l'État français n'est pas en mesure d'expliquer en quoi il est absolument nécessaire de le maintenir.
Donc il n'est plus utile aujourd'hui cet état d'urgence, c'est-à-dire vous demandez qu'on arrête cet état d'urgence.
Alors ce qu'Amnesty International demande, c'est en effet la levée de l'état d'urgence, sauf si l'État français peut expliquer qu'il est absolument nécessaire pour faire face à un danger précis, et un danger précis est imminent. Non. C'est-à-dire que la menace terroriste, elle existe aujourd'hui. Elle existe en France, elle existe en Europe. Et on sait que la menace d'attentat existe, mais qu'elle est amenées à exister pendant longtemps. Est-ce que ça veut dire qu'on doit complètement sortir de l'état de droit ? Eh bien non, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions qui permettent de respecter les droits humains, les droits fondamentaux qui sont quand même à la base de notre démocratie pour pouvoir continuer à vivre selon l'état de droit.
Mmh. Pour vous, l'état d'urgence, est-ce qu'on peut dire que quelque part, c'est un peu un piège qui se serait refermé sur ceux qui l'ont lancé, c'est-à-dire qu'une fois que c'est ouvert, bon, c'est pas le refermer.
Bah, en effet, c'est ce que l'on constate, c'est que des députés disent, bah, en effet, on voit que l'état d'urgence n'est plus nécessaire, qu'il faut en sortir, mais pourtant, ils ne vont pas oser voter contre la levée de l'état d'urgence, dans la crainte d'un nouveau.
Voilà, parce que vous comprenez typiquement là cet après-midi encore avec la tentative terroriste ou pas, ça sera déterminé, mais enfin en tout cas avec l'incident à Notre-Dame qui a eu lieu cet après-midi devant la cathédrale, vous comprenez que du coup les politiques disent on va pas arrêter maintenant, c'est pas possible.
Et alors justement, nous c'est ce que nous leur demandons. Nous leur demandons d'agir avec courage et de dire que l'état d'urgence n'est pas la solution à la menace d'attaque. Et encore une fois, je tiens à le rappeler, l'état d'urgence, ça a des impacts très concrets sur la vie de nombreuses personnes.
Votre rapport est paru fin mai. Vous avez le sentiment que le nouveau gouvernement a entendu ce message ?
Alors. Pendant sa campagne, Emmanuel Macron s'était engagé à garantir et à faire respecter le droit de manifester. Donc, ce que nous faisons actuellement, c'est que nous appelons le maximum de personnes à l'interpeller via Twitter, via un courrier à la présidence, via le site internet de l'Élysée. Vous pouvez retrouver tout cela sur notre site internet. Nous l'invitons à l'interpeller pour lui rappeler son engagement et lui rappeler l'importance du droit de manifester.
Sauf qu'il y a un projet de loi antiterroriste en gestation qui ambitionne de transporter les outils de l'état d'urgence dans le droit commun. Donc craignez-vous finalement que l'état d'urgence soit un état d'urgence permanent, mais dans la loi finalement ?
Oui, c'est quelque chose que l'on craint en effet, que les mesures de l'état d'urgence passent dans le droit commun, et ça serait extrêmement dangereux, puisque ça nous mènerait à, en effet, ce qui était prévu pour être de l'exception, que ça devienne quelque chose de permanent. Et encore une fois, il y a eu de très nombreuses lois antiterroristes votées depuis 20 ans. Nous demandons à ce qu'un état des lieux soit fait, un état des lieux sur leur efficacité, sur leur mise en œuvre et surtout sur leur impact sur les droits de tous les citoyens.
Alors il n'y a pas qu'en France qu'on observe cette tendance, et ça votre rapport, le rapport d'Amnesty International le décrit aussi. Dans le reste de l'Europe, on retrouve cette tendance sécuritaire.
Oui, en effet, c'est quelque chose que l'on retrouve dans de nombreux pays européens, de nombreux pays qui ont pu être touchés par des attaques terroristes ou non.
Mais vous les citez, ces pays d'ailleurs, on ne va pas en faire la liste.
Oui, mais justement, ce que j'aimerais dire, c'est... Enfin, j'aimerais vous donner un exemple tout simple. En Hongrie, il y a eu de nombreuses lois antiterroristes qui ont été votées. Et là, nous suivons actuellement le cas d'une personne qui s'appelle Ahmed H, qui est un réfugié syrien et qui est actuellement... en prison pour 10 années pour antiterrorisme parce qu'il a voulu faire passer la frontière à ses parents qui fuyaient la guerre en Syrie. Et là, ça fait, il va passer 10 ans en prison pour antiterrorisme. Et donc là, c'est un exemple que je vous donne pour vous montrer comment les lois antiterroristes peuvent être utilisées pour complètement autre chose. Que ce soit pour restreindre le droit de manifester ou que ce soit pour viser des personnes qui n'ont aucun lien avec le terrorisme.
Et au-delà même de l'état d'urgence, comment éviter l'usage de la violence par la police pendant les manifestations ? Est-ce qu'on peut faire des lois, par exemple ?
Alors, en effet, on peut imaginer l'adoption de lois, la création de circulaires, la création de bonnes pratiques. Enfin,
ce que vous demandez vous demandez des choses très concrètes dans les conclusions de votre rapport, dans vos recommandations, notamment l'interdiction des grenades de désencerclement, le recours limité au nassage, on l'évoquait. C'est des points très très concrets que vous voudriez voir disparaître.
Oui, justement.
Disparaître ou évoluer, en tout cas.
Oui. nous avons des recommandations concrètes, nous demandons au gouvernement de les appliquer. Mais pour revenir sur la question de l'usage de la violence, ce que nous demandons aussi, c'est que des enquêtes soient ouvertes sur toutes les violences, que les violences, qu'elles soient de la part des manifestants ou de la part des forces de l'ordre, soient traitées de la même manière, soient suivies de la même manière. Et donc nous demandons à ce qu'il y ait une transparence sur ces poursuites et que des enquêtes soient ouvertes.
Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme chiffre chiffres disponibles, justement, quand on parle de violence policière, concrètement?
Bah justement, le problème, c'est que les chiffres qui sont disponibles sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, et nous avons pu en parler avant de toutes les limites à ces chiffres, puisque de nombreuses personnes ont peur, forcément, si elles ont été victimes de la part de violence de la part de la police, de s'adresser à, enfin, de porter plainte auprès de la même police.
Ouais, et donc on n'a pas exactement avec ces chiffres une vraie description de ce qui se passe.
Et Amnesty sort souvent des rapports, et qu'attendez-vous de celui-là? Quelle répercussion espérez-vous au final?
Parce que nous espérons, ce que nous espérons, c'est pouvoir avoir un impact sur justement excusez-moi, un impact.
Si vous espérez que c'est un impact, ça c'est manifeste. Mais sur quoi exactement?
Voilà, ce qu'on souhaite, c'est avoir un entretien avec les membres du gouvernement en charge de la lutte antiterroriste, et qu'ils prennent en compte les recommandations de notre rapport.
Est-ce qu'il y a aussi un aspect de sensibilisation du grand public à cette question de l'état d'urgence et de l'importance du droit de manifester?
Oui, en effet, c'est important, puisque comme nous avons pu l'évoquer avant, on parle beaucoup dans les médias des violences à l'encontre des forces de l'ordre, des violences qu'il y a pu y avoir au sein des manifestations. On parle moins des violences à l'encontre des manifestants, et nous pensons qu'il est important de rappeler que ces violences ont lieu contre des personnes absolument pacifiques, et surtout dans cette ambiance où des personnes peuvent avoir peur de nouvelles attaques terroristes. Nous souhaitons toujours rappeler que les mesures de l'état d'urgence ont un impact très fort sur la vie de nombreux citoyens en France qui n'ont absolument aucun lien avec le terrorisme.
Moi, j'ai juste une petite question pour finir cette interview. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Là, c'était l'état d'urgence. Et là, en France, vous travaillez sur quoi?
En France, on continue à travailler sur le droit de manifester. Nous allons continuer à observer des manifestations, à voir l'évolution des stratégies au sein des manifestations.
Notamment la récolte de chiffres, hein, il en était question. C'est beaucoup de témoignages qu'on trouve dans votre rapport. Concrètement, ces témoignages, vous les obtenez comment? Vous allez rencontrer les gens, vous prenez contact, vous...
Oui, exactement. On prend contact à travers des associations, à travers des syndicats. Ce que nous avons fait, c'est des missions de terrain, et nous avons recueilli plus de 80 témoignages dans le cadre de ce rapport que nous avons construit pendant une année.
Ce qui fait du coup partie de votre travail. Alors je rappelle qu'en fait vous êtes chargé de campagne Liberté pour Amnesty International. Ça vous amène à faire de la récolte d'informations sur le terrain, ou bien c'est vraiment la coordination de campagne?
Alors moi je travaille vraiment sur la coordination de campagne. Nous avons des chercheurs spécialisés en fait. Nous avons un chercheur spécialisé, Marco Perolini, sur les questions de terrorisme en Europe, qui a mené ce rapport pendant une année en France. Mener les recherches.
Une dernière question, votre rapport, il était initialement prévu pour le début du mois de mai. Vous l'avez repoussé de quelques semaines, pourquoi ça?
Eh bien,
la publication de ce rapport donc sur le droit de manifester, l'état d'urgence.
Alors nous avons repoussé de quelques semaines ce rapport en fait, parce que nous préférions pouvoir en discuter avec le gouvernement nouvellement élu, et donc nous nous sommes dit que nous préférions attendre la fin des élections présidentielles en France.
Pour pouvoir du coup, pour pouvoir en parler et potentiellement avoir un impact. Votre rapport s'appelle Un droit, pas une menace, il est disponible bien sûr sur le site d'Amnesty International. Merci beaucoup Elsa Olaizola d'être venue nous parler ce soir.
Merci à vous.
La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. We'll be right back.
Posé, écoutez à l'instant, c'est 90 Eternal. C'était Lord Echo sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
C'était ce dimanche que se tenait le salon d'été Kraki sur la place de la bataille de Stalingrad dans le 19e, après un triste hiver pendant lequel des réfugiés n'avaient pas d'autre choix que de dormir dans des tentes entre Stalingrad et Jaurès. Le quartier s'anime maintenant autour du bassin de la Villette, musique électronique, balade en bateau, pétanque, apéro au bord de l'eau, quand la Villette s'habille pour l'été. C'est un reportage de Tom Rossi.
La house et la techno ont pris possession de la place de la bataille de Stalingrad au bord du bassin de la Villette. Le temps d'une journée, le label Kraki Records a installé son salon de plein air au pied de la rotonde. Quelques canapés et des boissons fraîches, il n'en faut pas plus pour profiter pleinement du soleil et de la musique made in Kraki. Mais la plupart des gens présents ce dimanche après-midi ne savaient même pas que des artistes venaient mixer. C'est le cas d'Aurélia, une étudiante de 24 ans venue faire tout autre chose.
On avait loué un petit bateau sur le canal Porte de la Villette. Du coup, en rentrant, on a entendu du son et on s'est dirigé vers la place. Et voilà, ça nous a paru très cool comme fête.
Et pour elle, cet événement tombe bien, il lui évite de rester cloîtré dans son appartement.
C'est super sympa parce que c'est ce qu'on disait, le dimanche on ne fait pas grand chose, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans Paris et on ne sort pas forcément de nos quartiers un peu morts du 17e, 15e, etc. Et ouais, ça vaut grave le coup parce que finalement tout le monde vient ici pour se rencontrer, pour parler. Il y a des gens ouais, qui jouent à la pétanque, nous on a fait du bateau. C'est hyper sympa et c'est mieux que rester chez soi le dimanche, donc parfait.
Étienne, 25 ans, est lui venu spécialement pour la musique et apprécie que cette open air soit organisée entre Stalingrad et Jaurès.
Mais ici c'est bien parce que ça laisse aussi la place, ça reste très populaire. Ça laisse la place un peu à toutes sortes d'expressions et plein de personnes qui viennent jouer au foot, faire du skate, faire plein de choses, de la danse. Donc c'est cool, je trouve que c'est vraiment un lieu de création, quoi, un lieu d'expression. Et heureusement qu'il y a la musique électronique à ce moment-là. Quoi. C'est ça qui fédère, c'est ça qui rassemble et les gens se baladent sans forcément d'obligation d'achat, de bière ou que ce soit.
Ce jeune Parisien aimerait que plus d'événements de ce type voient le jour dans la capitale.
Les open air, j'ai l'impression que c'est un truc qui est présent mais pas forcément encore assez parce qu'on n'a pas encore tout investi en fait. Pas tous les lieux de vie, en fait des lieux comme ça populaires, mais aussi qui laissent la place à tout le monde. Et pour moi en fait, il y en a quelques-uns c'est sûr, mais si ça pouvait se développer, ce serait mieux quoi.
La balade dominicale se poursuit sur les quais, où certains n'ont pas l'intention de venir poser leurs oreilles près des enceintes. Maïté, 26 ans, vient tous les week-ends avec ses amis. Tous ensemble, ils ont leur petite habitude près du bassin de la Villette.
Je viens souvent avec la slackline, donc c'est une sangle qu'on tend entre deux arbres et on fait de l'équilibre dessus. Et on vient avec un molki qui est une sorte de pétanque finlandaise. Et avec des cartes aujourd'hui.
Ici, une seule chose lui manque, pouvoir se baigner. Et pour la première fois, ce sera possible à partir de mi-juillet. Des travaux sont actuellement en cours pour installer 3 bassins en eau libre. Ce sera gratuit et ouvert à tous. Un aménagement qui n'est pas une préoccupation majeure pour certains habitués du quartier. Ils viennent pour une chose, apprendre le français. Ces réfugiés sont là tous les soirs et Pierre, un infirmier à la retraite, leur donne des cours. La nuit commence à tomber ce dimanche, les gens font la fête, la musique est forte, mais ce sexagénaire préfère relativiser.
Le contraste avec la fête, ça va, hein. C'est l'Afrique, hein, donc ça va. Quoi. Cela dit, nous, ça nous dérange un peu quand même. Hein. Moi, j'avais la tête un peu comme ça ce soir, comme une citrouille. Quoi, voilà. Mais bon, ça va, ça se passe bien. Quoi.
Certains fans de musique électronique viennent même assister à ces cours par curiosité. La Villette, aux heures d'été, c'est un lieu de partage, un quartier jeune, cosmopolite, où il fait bon se poser entre amis. Et quand la musique est au rendez-vous, c'est encore mieux.
Et en musique, c'est encore mieux, bien sûr. Le reportage de Tom Rossi sera à réécouter dans quelques instants sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org.
La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
Si vous êtes encore là à 19h36, c'est tant mieux car c'est une expérience assez unique que vous propose le parc zoologique de Paris à la tombée de la nuit, plus précisément Sophie Ferreira Le Morvan. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice du parc zoologique de Paris. Alors on peut peut-être d'abord en quelques mots rappeler où est-ce qu'il se situe ce parc zoologique et ce qu'on peut y trouver, quel type d'animaux on peut y trouver.
Alors parc zoologique de Paris se situe dans le bois de Vincennes, métro Porte Dorée, ligne 8 tram 3.
C'est
précis. Ouais, c'est précis. Juste de l'autre côté du périph', accessible à pied, en vélib, en autolib, etc. Il y a tout ce qu'il faut pour accéder au parc. C'est un parc qui existe depuis 1934, mais qui a été entièrement rénové et qui a réouvert ses portes au public en 2014. On y trouve près de 2000 animaux, 180 espèces différentes, sur un parcours d'environ 4 km, qui permet de traverser 5 biozones du monde. Donc la Patagonie, le Sahel-Soudan, l'Europe, la Guyane et Madagascar.
Alors pour nous, pauvres êtres humains, la nuit est souvent synonyme de repos et de silence, mais la réalité dans la nature et dans un zoo est complètement différente.
Oui, c'est même presque le contraire, alors pas tout à fait, mais c'est vrai que la tombée de la nuit a pour avantage de voir des animaux très très actifs, notamment tous les prédateurs, puisque c'est le moment où, effectivement, dans la nature, ils chassent et ils se mettent en recherche de leur proie. Et donc, c'est vrai qu'on propose un parcours de visite qui permet de découvrir les animaux sous un autre jour, d'assister à des points-paroles de soigneurs animaliers, de nos médiateurs, à faire des jeux avec eux aussi, des quiz pour mieux connaître les espèces. Mais c'est surtout un site qui est magnifique au coucher de soleil. Pardon.
Et alors, est-ce que c'est vrai aussi dans un zoo? Alors, c'est vrai que vous évoquez les prédateurs dans la nature, hein, qui se comportent différemment la nuit. Est-ce que ça, on peut vraiment l'observer dans un zoo?
Alors, c'est le travail des soigneurs animaliers de reproduire des conditions qui permettent aux animaux d'exprimer certains comportements qu'ils trouvent dans la nature. Donc pour ça, ils vont utiliser certains artifices qui peuvent être de mettre des odeurs dans les enclos, de créer des enrichissements, de cacher de la nourriture, par exemple, pour justement permettre à l'animal de retrouver un petit peu ses comportements.
Mmh. Alors, c'est tous les jeudis, donc des mois de juin et de juillet, donc ça commence. Le parc zoologique va donc rester ouvert beaucoup plus tard. Est-ce qu'on pourra voir tous les animaux? Vous évoquiez les centaines d'animaux qu'on pouvait voir chez vous. Est-ce qu'on pourra tous les voir?
Alors, jusqu'à la tombée de la nuit, on peut voir effectivement la quasi-totalité des animaux, même tous les animaux. Ceux qui doivent rentrer un petit peu avant, parce que c'est plus compliqué de les rentrer au moment où la nuit tombe, ceux-là sont visibles dans leur loge intérieure. C'est le cas des girafes, par exemple. Donc, le troupeau de girafes est visible depuis la galerie. Donc, on les voit dans leur loge, là où elles dorment et passent la nuit. Et après, on a un parcours de visite qui est accessible jusqu'à 22h, 22h30, le moment où le soleil vraiment se couche. Et après, on peut terminer la soirée au restaurant du zoo sur des moments plus festifs mis en musique par des DJ.
Mmh, oui, donc il y a quand même des animaux qui dorment. Ça me...
Oui, il y a des animaux qui dorment. Ouais,
ça me rassure un peu. Alors, quels animaux en particulier est-ce qu'on peut observer lors de ces nocturnes? Vous parliez des prédateurs il y a un instant. Il y en a d'autres
qui
ont un comportement.
Oui, ce qui est très intéressant, c'est effectivement les prédateurs, donc les félins, les loups, évidemment, les gloutons, etc. Et puis, ce qui est aussi très, très beau à ce moment-là, c'est toute la grande serre et la grande volière, puisque là, à ce moment-là, on a des grandes envolées des oiseaux qui sont en vol libre et qui vous passent au-dessus de la tête. Et surtout dans la serre, on peut aussi découvrir les roussettes, qui sont des grandes chauves-souris. Et ça, c'est toujours impressionnant pour les visiteurs.
J'imagine. Alors, vous allez proposer des animations également, vous le disiez il y a un instant, des animations qui vont avoir lieu devant les enclos. Alors concrètement, je lisais en préparant l'émission qu'on va pouvoir voir le nourrissage des otaries, c'est ça? Entre autres, hein, il y a beaucoup d'autres choses. Mais...
Oui, alors sur les otaries, ce n'est pas tout à fait un nourrissage, c'est une séance de training. Donc c'est de l'entraînement qu'on fait auprès des otaries, qui consiste, nous, c'est un entraînement à but essentiellement médical et gestion animale. Ça permet aux otaries de s'habituer et d'adopter certains comportements qui évitent de devoir les anesthésier quand on doit les soigner. Donc on leur apprend à prendre certaines postures pour pouvoir faire une échographie, pour pouvoir faire une prise de sang sans avoir à passer par l'anesthésie. Et en fait, on explique ces gestes et comment se déroule cet entraînement avec les visiteurs. On peut aussi faire participer les visiteurs à cet entraînement en aidant les soigneurs à montrer la cible aux animaux, etc., pour un peu les guider. Donc, il y a ce type de séance-là. Il peut y avoir simplement des points-paroles et des présentations. C'est le cas, par exemple, des girafes. On va présenter le troupeau de girafes, évoquer les problématiques de conservation qui sont liées et expliquer aux personnes la manipulation qui consiste à rentrer les animaux dans leur grande loge. Et puis sur d'autres animaux, ça peut être aussi des nourrissages.
Oui, je voyais les lions notamment qu'on pourra approcher. Là, on est aussi sur ce que vous appelez le nourrissage, ou enfin, en tout cas l'entraînement. Alors, il y a une question que je me suis posée, Sophie Ferreira. Est-ce qu'on ne risque pas de déranger certains animaux en les observant la nuit?
Alors, c'est une très bonne question, mais le parcours et le choix des animaux qu'on laisse dans leurs enclos ces soirs-là a été fait avec les vétérinaires du parc en fonction justement de ces comportements. Et on a sélectionné donc les animaux qui ont une activité nocturne exprès. Et en plus, ce qu'il faut savoir et ce qui est intéressant, c'est que le fait de pouvoir les laisser un petit peu plus tard la nuit peut constituer chez certains animaux justement un enrichissement, puisque c'est une période qu'ils n'ont pas l'habitude dans leur vie normale, on va dire, du parc. Et là, au contraire, pour eux, ça permet d'entendre d'autres bruits, de justement de voir la lumière baisser, d'adopter certains comportements qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'adopter sinon.
Alors, ces nocturnes du parc zoologique, vous l'aviez déjà fait l'an dernier. Qu'est-ce qui vous a convaincu de le refaire cette année-ci?
Le succès de l'année dernière, d'une part, et surtout la satisfaction des visiteurs, justement, qui ont tous dit de manière assez unanime que c'était un autre moyen de découvrir le parc, que c'était plus calme en termes d'affluence, du coup plus agréable, et surtout qu'ils découvraient les animaux sous un autre aspect. Et ce qui était très positif, c'est que même nos abonnés qui avaient l'habitude de venir tous les jours, vraiment de connaître très bien le parc, ont à cette occasion-là, l'année dernière, redécouvert le parc sous un autre jour. Et donc ça nous a vraiment convaincus de faire une nouvelle édition cette année.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Standing by my door, high up the soul, and the heart of fear has gone. You know anyway.
À l'instant, le son un peu hypnotique et la voix un peu hypnotique de Maud Geoffrey, c'était Standing by My Door sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
On est toujours avec Sophie. pardon, avec Sophie Ferreira, le Morvan, qui est directrice du parc zoologique. On la reçoit pour parler des nocturnes de ce parc zoologique qui ont lieu en juin et juillet. Petite question, on a un peu parlé des différentes animations. Il y aura aussi des connaissances, enfin des quiz quelque part auxquels on pourra participer. Concrètement, l'idée c'est quoi? C'est de tester un peu ses connaissances, c'est ça?
Oui, de tester et puis d'en acquérir. Donc effectivement, les médiateurs du parc proposent des quiz devant certains enclos pour à la fois jouer. C'est une manière ludique d'en savoir un petit peu plus sur les animaux. On propose aussi une initiation au cours de dessin scientifique et animalier pendant ces soirées. Et puis des activités plus ludiques, un artiste qui vient jouer avec les bulles. Donc parfois dans les allées, donc on le rencontre au gré des allées, mais il peut aussi interagir avec certains animaux, notamment les manchots, pour là aussi faire un enrichissement pour les animaux.
C'est important pour votre parc, pour le parc zoologique de Paris, d'avoir une dimension pédagogique.
Non seulement c'est important, mais en plus ça fait partie de ses missions premières, puisque le parc zoologique de Paris est un site du Muséum National d'Histoire Naturelle, c'est un établissement public, et sa mission première est la diffusion des connaissances et l'éducation. Oui.
Donc c'est important d'avoir cet aspect-là. Alors il y a une autre dimension, on parle beaucoup de l'environnement aujourd'hui dans l'actualité, avec l'accord de Paris, dont les États-Unis sont sortis la semaine dernière. Est-ce qu'en tant que directrice du parc zoologique, le respect de l'environnement, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement ?
Oui, bien sûr. Une de nos missions premières est l'éducation à l'environnement, justement, l'éducation à la conservation. Et donc, tout notre propos aujourd'hui en tant que parc zoologique n'est pas seulement d'être un lieu de loisirs, ce qu'on est évidemment, puisque les gens viennent là pour des moments de détente et de convivialité en famille ou entre amis, mais d'être bien un lieu d'éducation et de sensibilisation à la préservation de la biodiversité. Les zoos maintenant participent à des programmes de conservation, d'abord en conservant au sein de leur parc zoologique des espèces qui parfois ont disparu à l'état naturel, en les faisant reproduire et en maintenant ainsi un patrimoine génétique qui peut disparaître dans la nature. Et puis on mène aussi des actions directement dans les pays d'origine des animaux qu'on présente, en participant avec des associations sur place ou avec, pour le parc zoologique de Paris, des universités sur place, à certains programmes de conservation, de sensibilisation des populations locales à leur patrimoine naturel, etc.
Alors pour ces élections législatives, Sophie Ferreira, il y a un parti, le parti animaliste, qui dans son programme propose d'organiser la reconversion des zoos en réserve, enfin en refuge, pour préparer la réhabilitation des animaux, quelque part pour un peu libérer les animaux. Je pense que c'est la suite des idées. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça ne marche pas tout à fait comme ça. D'abord, c'est quelque chose que les parcs zoologiques font depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, on n'a pas attendu qu'il y ait un parti pour ça, puisqu'il y a certaines espèces, par ailleurs présentées au parc zoologique de Paris, qui ont été réintroduites à partir d'animaux fondateurs. Donc ça, c'est une réalité.
Donc concrètement, c'est des espèces que vous avez accueillies au zoo et que vous avez ensuite relâchées dans la nature.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un process qui est en plusieurs étapes. Les zoos ont comme rôle de conserver un patrimoine génétique. Et quand les conditions dans la nature sont réunies, et en général, c'est plutôt dans des réserves naturelles que dans la nature tout de suite, on peut éventuellement donner un animal fondateur, donc un mâle, une femelle, qui viennent soit du même zoo, qui viennent soit de zoos différents, pour pouvoir reproduire. Et c'est en fait les animaux issus de cette reproduction-là qui sont réintroduits. Vous ne prenez pas un animal qui a toujours vécu en captivité pour le relâcher demain dans la nature. Il est parfaitement inadapté pour ça.
Donc c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, c'est un process en plusieurs étapes. Et le parc zoologique de Paris, aujourd'hui par exemple, participe au projet national de réintroduction du lamantin en Guadeloupe. Donc on a des lamantins au parc zoologique qu'on étudie, on forme les personnes en Guadeloupe qui s'occupent de ce programme et de ce projet de réintroduction. On les forme à la gestion de cet animal à partir du parc zoologique et on va aider à trouver des fondateurs qui, eux, vont après mettre au monde des animaux qui, eux, seront réintroduits dans la nature. Mais on ne remet pas comme ça des animaux adultes dans la nature.
Alors Sophie Ferreira, ces nocturnes du parc zoologique, elles ont lieu en juin et en juillet. Est-ce que ce serait envisageable de le faire à une autre période de l'année ?
Alors, ça pourrait être fait à une autre période de l'année, mais on est contraint par le soleil et la tombée du jour. Et donc, effectivement, on le fait l'été puisque ça permet d'avoir un peu plus de temps pour la visite et du temps pour les animaux. Et on respecte et on souhaite respecter cette durée du jour et cette tombée de la nuit et ne pas imposer aux animaux un éclairage qui ferait qu'on les maintiendrait justement en dehors de leur cycle naturel qui est lié à celui du soleil.
Parce que concrètement, le rallongement des journées, ça entraîne des changements de rythme pour beaucoup d'animaux.
Ça peut, oui, effectivement, ça peut entraîner des changements de rythme, puisque tout au long de l'année, en fait, en fonction de ce coucher du soleil, les horaires d'ouverture du parc varient, et effectivement, les horaires de rentrée des animaux et donc de prise de repas peuvent varier. Oui.
Alors, très concrètement, c'est donc au parc zoologique près du bois de Vincennes. On peut entrer dès 19h30, les soirs de nocturne, et l'entrée est gratuite à partir de 21h30.
Oui, alors on peut rentrer toute la journée et rester pour la nocturne, mais on peut, effectivement, on peut venir à partir de 19h30, en fait, on applique un tarif réduit. Et à partir de 21h30, comme il ne reste plus qu'une demi-heure, trois quarts d'heure de visite, là, l'entrée est gratuite. Et on peut rester au parc zoologique jusqu'à 1h du matin, puisqu'à partir de 22h30, le parcours de visite est fermé, les animaux sont tranquilles et on enchaîne la soirée de manière plus festive autour d'un verre ou d'une planche de fromage et d'une nourriture à partager en famille au restaurant du parc.
Encore un petit mot, vous attendez tous les types de public. C'est pas forcément les enfants, c'est vrai que quand on parle le zoo, on se dit que c'est plutôt familial.
On accueille tous les types de public, effectivement. Le visitorat du parc zoologique de Paris est pour moitié des gens qui viennent sans enfants. Donc c'est vraiment un lieu de convivialité, détente et de visite en famille ou entre amis. Et effectivement, pour ces nocturnes, on a aussi bien des familles qui viennent profiter tranquillement du parc après la sieste du petit dernier, par exemple, que des jeunes ou des collègues qui viennent pour un after work.
Donc c'est effectivement très très large comme public. C'est tous les jeudis des mois de juin et de juillet, c'est au parc zoologique de Paris dont vous êtes la directrice. On mettra bien sûr toutes les informations nécessaires sur le podcast de l'émission. Merci beaucoup Sophie Ferreira-Lemorvan d'être venue nous parler ce soir.
Merci.
La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi, jusqu'à 20h.
Il passe ses journées à humer la poussière de la Porte d'Auteuil. Il arpente ces jours-ci les gradins du Suzanne Lenglen. Nous avons la grande chance de l'avoir au micro ce soir. Bonsoir Roland.
Bonsoir Alban.
Depuis 10 jours, la Porte d'Auteuil vit au rythme des coups de raquette et des impacts de balles jaunes à Roland-Garros, pour le plus grand bonheur évidemment des amoureux de tennis. Mais Roland Richard, ce soir vous souhaitez vous élever contre une injustice. En France, on aime moins les joueuses que les joueurs. Alors selon vous, pourquoi faut-il aimer et regarder le tennis dame?
Eh bien déjà Alban, je vous sais gré de parler de tennis dames et pas de tennis féminin, car les règles sont exactement les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Il n'y a donc aucune raison de le caractériser par un adjectif.
Bah, vous avez raison, soyons précis. Alors pourquoi aimer le tennis dames donc en l'occurrence?
Eh bien certainement pas pour la seule plastique des joueuses. J'entends déjà frétiller les misogynes tout poil dehors et affirmer entre deux gloussements velus qu'ils ne regardent les matchs du tableau dames que quand Maria Sharapova et Anna Ivanovic sont là. Messieurs, je vous laisse entre rustres. Pourquoi donc aimer les dames? Va-t-il en venir en fait au fait ce satané
bourreau?
Parce que les Françaises, eh bien, Alban, ont plus souvent brillé que leurs homologues messieurs depuis le début de l'Air Open en 1968, c'est-à-dire grossièrement depuis le début du tennis professionnel. En près de 50 ans, un seul représentant tricolore, mythique certes, a remporté un grand chelem,
oui,
Yannick Noah, en 1983.
Absolument.
Quand les femmes ont, elles, enlevé, ravi, arraché 5 tournois majeurs, l'Open d'Australie 1995 et Roland-Garros en 2000 pour Mary Pierce, l'Open d'Australie et Wimbledon en 2006 pour Amélie Mauresmo et Wimbledon en 2013 pour Marion Bartoli.
Je vous entends bien, donc l'histoire est du côté des Françaises, très bien, mais ce qui nous intéresse, Roland Richard, c'est aussi le présent. Pourquoi aujourd'hui faut-il regarder le tennis dames?
Parce que cette année, le tennis français a changé de sexe, comme le dit très bien notre consoeur de l'équipe Sophie Dorgan. Voilà plus de 10 ans que l'on parle des nouveaux mousquetaires, Tsonga, Monfils, Gasquet et Simon, référence aux 4 vieux mousquetaires entre guillemets, Borotra, Lacoste, Cochet et Brugnon, 4 hommes qui avaient remporté entre deux guerres 19 grands chelems en simple et 6 Coupes Davis. Le bilan de nos nouveaux mousquetaires est bien moins reluisant. Alban, une seule finale en majeur pour Tsonga en 2008 à l'Open d'Australie, perdu, et aucune victoire en Coupe Davis.
Effectivement.
Il est donc temps, Alban, de s'enticher de nos Françaises.
Voilà.
Parce que leur densité au plus haut niveau est inédite au XXIe siècle. 3 Françaises en 8e de finale à Roland-Garros, Cornet, Mladenovic et Garcia. Ça n'était plus arrivé depuis 23 ans. Avant, on avait eu des phénomènes individuels, on l'a dit, Pierce, Mauresmo et Bartoli. Mais cette fois, nous avons une génération. Génération qui s'est offert une finale de Fed Cup l'an passé, l'équivalent de la Coupe Davis chez les dames. Finale perdue d'un rien, 3-2, contre les redoutables Tchèques. C'est donc tout sauf un hasard de retrouver les deux leaders de cette équipe de France de l'an passé en quart à Roland-Garros. Kristina Mladenovic, 24 ans, qui vient malheureusement de perdre contre Timea Bachinski. Et demain, dernier espoir français, Caroline Garcia, 23 ans, face à Carolina Pliskova.
Oui, donc il faut suivre de près ces deux Françaises dont la carrière semble décoller, dont acte, mais on dit souvent du jeu des dames qu'il est moins spectaculaire que celui des messieurs. Alors j'imagine que c'est évidemment pas votre avis, Roland.
Effectivement, Alban, ce n'est pas du tout mon avis. Au contraire, le jeu des dames est à mon sens débarrassé du poids de la surpuissance des messieurs.
Et voilà, c'est dit.
Et donc on est davantage dans la dramaturgie, dans l'incertitude du sport, et c'est ça qui nous plaît. La force imprimée dans la balle chez les hommes est telle que certains peuvent se contenter de miser essentiellement dessus, comme le font les canonniers au service, Karlovic, Isner ou Querrey. Chez les dames, personne ne sert à 230 km/h.
Pas encore.
Voilà, certes, Serena Williams, enceinte et donc absente à Roland-Garros, on le regrette, a beaucoup joué, elle, de sa force physique pour arracher ses 23 titres en Grand Chelem, mais elle a régulièrement pu être battue il y a quelques années, je sais que ça va vous faire plaisir, Alban, par une certaine Justine
Absolument
Hénin.
Grande championne, Justine Hénin.
Justine Hénin qui misait au contraire sur la variété des types de frappe et des zones de frappe. Ces dernières années, des joueuses comme Elena Dementieva ou Sara Errani ont atteint la finale à Paris sans avoir de service réellement efficace. Alors pourquoi est-ce si important, me direz-vous,
vous poser la question,
d'insister sur cette histoire de service? Eh bien parce que quand le service est en recul, c'est dans l'échange et grâce à la variété que vous parvenez à gagner des matchs. Nos deux Françaises en quart de finale sont toutes les deux puissantes et puncheuses, certes, mais Kristina Mladenovic a un service en souffrance depuis le début du tournoi et ça ne l'a pas empêchée d'être en quart de finale. L'ultime raison qui fait que vous devez, à mon sens, regarder le tennis dames jusqu'à samedi, c'est qu'à Paris, Serena Williams, Maria Sharapova et Victoria Azarenka sont absentes et que parmi les quarts de finalistes, aucune n'a déjà remporté un grand chelem.
J'ai ouvert donc.
Quoi qu'il arrive, un nouveau visage Alban va donc soulever la coupe Suzanne Lenglen samedi, alors pourquoi pas celui d'une Française. On espère que ce sera celui de Caroline Garcia.
Absolument, c'est votre pronostic, Roland?
J'espère.
Merci beaucoup Roland pour cette chronique Roland Garantesque. Voilà, c'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez manqué une partie de la matinale, vous pouvez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Tout de suite, restez bien connectés sur Radio Campus Paris, puisque c'est On veut du solide qui arrive dans vos oreilles. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, de quoi allez-vous nous parler ce soir? Le micro grésille, on va le régler. Dites-nous ça.
On reçoit le collectif Œil numéro 21 qui nous permet de faire des belles expositions de photographes amateurs de qualité. Et ensuite, le groupe Cochin Moon qui va nous permettre de le découvrir un peu plus, qui sont assez mystérieux. Et un petit live en prévision.
Et bah, c'est parfait. Restez bien connectés donc pour entendre tout ça. Merci à Julien qui était à la réalisation. Merci à Elsa et Marion qui ont préparé cette émission. On se retrouve avec la matinale demain à 19h sur le 93.9. D'ici là, bonne soirée à tous. Vive la radio.